12h30, 14h.
Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Bonjour Anissa.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Dans une minute, Pierre de Villeneuve vous accompagne pour le Grand Journal. Et juste après, gros plan sur les sports d'hiver. Une partie d'entre vous part à la neige. Et oui, pendant ces vacances de février, mais tout le monde ne skie pas. Alors on a voulu s'intéresser à la glisse en général, version tricolore. C'est ça, la France qui bouge. On vous attend.
Il est midi et demi. Le journal de la mi-journée sur Europe 1. Pierre de Villeneuve, Raphaël Duchemin.
Bonjour Pierre.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Un incendie meurtrier dans une tour de 14 étages à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis.
Et un mort et deux pompiers grièvement blessés. Christophe Castaner s'est rendu sur place. Nous y sommes aussi dès le début de ce journal. Circuler, il n'y a rien à voir. Voilà en substance ce que dit Édouard Philippe sur la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla. Nous entendrons le Premier ministre qui y va très fort. Le pape François réclame des mesures concrètes et efficaces pour stopper les agressions sexuelles sur les mineurs perpétrées par des hommes d'église. Sommet inédit étalé sur plusieurs jours au Vatican. Nous y sommes et nous serons en ligne avec Jean-François Colosimo, spécialiste des religions. Dans ce journal également, de nouvelles inscriptions antisémites, cette fois dans le 14e à Paris, tandis que l'homme qui a insulté Alain Finkielkraut est toujours en garde à vue à Mulhouse. Comment trouver un job lorsqu'on n'est pas diplômé? La question et la réponse dans ce journal. Un curieux changement de sponsor au PSG avec au bout du fil un certain Nicolas Sarkozy. Et puis, la collection Courtois, exceptionnelle exposition en ce moment à la Fondation Vuitton à Paris. La météo Elena Morda, une météo du mois de mai.
Avec du soleil et des pointes à 22 degrés cet après-midi dans le Pays Basque, une météo bonne pour le moral mais pas pour l'atmosphère. Pic de pollution aujourd'hui en Ile-de-France, évitez de circuler en voiture ou encore les sports en extérieur.
Merci Elena, on vous retrouve tout à l'heure. Météo complète, ce sera juste avant 13h sur Europe 1.
Europe 1.
C'est donc un incendie meurtrier qui a frappé, Pierre, un immeuble de 14 étages à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis.
Et le bilan est d'un mort et deux pompiers grièvement blessés. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'est rendu sur les lieux. Mathieu Bock, vous êtes sur place, le feu a pris très tôt ce matin.
Oui, vers 7h, de la fumée et des flammes ont commencé à se dégager d'un appartement situé au deuxième étage de cet immeuble qui en compte 14. Rapidement, les habitants se sont prévenus les uns les autres en tapant aux portes, comme le raconte Daniel.
On était de coucher, on était en train de dormir et le fils de l'appartement où l'incendie est parti est venu taper à toutes les portes pour réveiller les gens, disant évacuer parce qu'il y a le feu dans la maison. On était dehors avant les pompiers qui arrivent, avant que les pompiers arrivent.
Alors d'après les premiers éléments de l'enquête, c'est un habitant qui s'est endormi sur son lit médicalisé, une cigarette à la main, qui a déclenché cet incendie. Et c'est cet homme, âgé d'une soixantaine d'années, qui est mort ce matin. Deux pompiers de 20 et 21 ans ont été gravement brûlés en tentant de l'évacuer. Ils sont soignés actuellement à l'hôpital Percy de Clamart. Cet immeuble n'était pas insalubre, c'est ce qu'a immédiatement tenu à préciser le maire d'Aulnay-sous-Bois, Bruno Béchiza.
Nous sommes malheureusement dans le cadre d'un accident grave, mais accidentel. On n'est pas dans le cadre d'une copropriété dégradée, on n'est pas dans du logement insalubre, on n'est pas dans du marchand de sommeil. Malheureusement, en Seine-Saint-Denis, il y a aussi des accidents. Je n'aimerais pas que nos villes de Seine-Saint-Denis soient systématiquement victimes d'une image en disant « il y a des incendies parce qu'il y a de l'insalubrité ». Non.
Actuellement, 70 personnes sont hébergées dans un gymnase juste à côté. La mairie et la préfecture cherchent des solutions pour les reloger d'ici ce soir. Mais une grande partie des habitants devraient regagner leurs appartements au cours de la journée.
Merci Mathieu Bock en direct d'Aulnay-sous-Bois pour Europe 1.
La suite du journal sur Europe 1 avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Et après Benjamin Griveaux qui hier dénonçait beaucoup de contre-vérités dans le rapport du Sénat sur l'affaire Benalla. Voilà Pierre que le Premier ministre en remet une couche.
Ouais, et elle n'est pas mince la couche. Je vous propose d'écouter Édouard Philippe.
La commission d'enquête du Sénat et le Sénat ont choisi de se livrer à une appréciation qui est, je crois, très politique. Je n'en suis pas surpris, mais comme j'ai un attachement très vif et très grand au principe de séparation des pouvoirs, j'en suis un peu déçu. J'observe également qu'un certain nombre de recommandations concernent des fonctionnaires qui travaillent auprès du président de la République, et notamment le secrétaire général de l'Élysée. J'ai trouvé ces recommandations ou ces formulations incompréhensible et souvent injuste, car je peux témoigner de ce que le secrétaire général de l'Élysée, notamment, est un grand serviteur de l'État. C'est la raison pour laquelle je ne saisis pas très bien la portée de ces remarques.
Édouard Philippe, en fin de matinée à Matignon, Aurélie Herbemont, on peut dire que le service après-vente est en marche.
Ah oui, depuis hier, la majorité pilonne le Sénat avec cet angle d'attaque. Le Sénat a outrepassé ses droits. Dans les couloirs de l'Assemblée, on martèle que les sénateurs ne peuvent pas jouer au procureur et surtout pas se mêler de l'organisation de l'Élysée. Les ténors de la majorité se relaient méthodiquement pour torpiller ce rapport au vitriol. Un rapport fait pour abîmer l'Élysée, selon le patron de La République En Marche, Stanislas Guérini. Quand François Bayrou se montre tout aussi cinglant, quand il y a des contre-pouvoirs, dit-il, il arrive très souvent que les contre-pouvoirs soient plus contre que pouvoir. L'exécutif accuse la commission d'enquête de faire de la politique, mais le gouvernement aussi fait de la politique. Objectif, dédramatiser cette affaire Benalla qui empoisonne le pouvoir depuis le mois de juillet. Alors au Sénat, cette contre-attaque ne passe pas. Pour l'entourage de Gérard Larcher, le Sénat est dans son rôle. Il ne s'agit aucunement de confrontation ni de revanche, nous assure-t-on. Et le feuilleton n'est pas fini. On attend encore la riposte de l'Élysée.
Merci Aurélie Herbemont.
Il est 12h35 sur Europe 1, la suite du journal. Pierre de Villeneau, Raphaël Duchemin.
Avec Emmanuel Macron, très attendu, vous le savez, sur la question de l'antisémitisme hier au dîner du CRIF.
Dans le contexte qu'on sait, 74% d'augmentation des actes antisémites en un an. Une nouvelle série d'inscriptions outrageantes ont été retrouvées aujourd'hui avec des croix gammées dans le 14e arrondissement de Paris. C'est donc désormais tous les jours. Et devant les institutions juives de France, le constat dressé par le président est très fort.
Notre pays, comme d'ailleurs l'ensemble de l'Europe et la quasi-totalité des démocraties occidentales, est confronté à une résurgence de l'antisémitisme sans doute inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Face à cet inacceptable, il serait faux de dire que nous n'avons rien fait. Nous avons condamné beaucoup, adopté des plans, souvent, depuis des années et des années, voté des lois parfois, mais nous n'avons pas su agir efficacement. Et si nous en sommes là aujourd'hui, c'est bien pour cela. Trop d'indignation, trop de mots, pas assez de résultats.
Voilà donc Emmanuel Macron avec Jean-Rémy Baudeau.
Et donc pour lutter contre ce fléau, le président a annoncé vouloir tracer de nouvelles lignes rouges avec à la clé un projet de loi qui notamment prévoira des amendes pour toutes ces plateformes internet qui diffusent des propos racistes et antisémites. François Geffrier.
Oui, aujourd'hui il y a partout sur les réseaux sociaux le petit bouton où il est écrit « signaler » et qui permet donc d'alerter les modérateurs de Facebook, Twitter, YouTube ou autres sur un contenu qu'on estime haineux ou contraire aux règles d'utilisation. Les modérateurs, ils sont au nombre de 15 000 dans le monde pour Facebook, 10 000 chez Google, Twitter aussi en a. Ils ne sont pas basés en France, mais ces réseaux, elles nous affirment qu'ils ont des francophones et des Français 24 heures sur 24 qui veillent sur nous. Sauf que voilà, ça ne va pas toujours assez vite et le gouvernement français veut donc s'inspirer de ce qui se fait depuis un an en Allemagne, où la loi permet d'infliger jusqu'à 50 millions d'euros d'amende à un site si un contenu haineux signalé n'est pas retiré dans les 24 heures. Puis Emmanuel Macron veut traiter les internautes indésirables comme des hooligans, c'est-à-dire qu'ils pourraient être interdits de réseaux sociaux comme les hooligans peuvent être interdits de stade. Reste à voir aussi si les règles d'utilisation des réseaux sociaux correspondent à l'éthique et à la loi française. Vendredi dernier, Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique, reprochait sur Europe 1 face aux auditeurs, aux plateformes, de manquer de transparence.
Merci François Geffrier. Pendant ce temps, la garde à vue de celui qui a verbalement agressé Alain Finkielkraut se poursuit à Mulhouse. Écoutez l'avocat de Benjamin, qui a aussi pris le nom de Souleymane depuis qu'il s'est radicalisé. Écoutez donc Maître André Chamy.
Ça se passe plutôt bien. Il s'explique sur les faits qui lui sont reprochés. On voit que cette affaire devient de plus en plus minuscule, au point de ne pas savoir pourquoi on en est là. C'est le personnage d'Alain Finkielkraut qui crée la polémique autour de lui. Et c'est ce qui explique la réaction de mon client, qui ne supporte pas ce personnage, non pas en raison de son appartenance à telle religion ou à telle communauté, c'est en raison de ses opinions politiques exprimées par lui et assumées par lui, c'est tout. En réalité, ce dossier est vide. Il n'a aucune idéologie antisémite. Lui, il regrette plutôt les insultes. Il n'aurait pas voulu dire le terme « grosse merde » ou quelque chose comme cela. Parce qu'il m'a dit, c'est pas mon langage, mais c'est sorti comme ça. Mais il ne veut pas qu'il soit donné un caractère antisémite à ses propos.
On nous dit 2014, mouvance salafiste
c'est
pour
faux.
Votre client.
C'est faux, c'est faux. Il n'a plus fréquenté un quelconque mouvement depuis 2003. Il a fréquenté une mosquée salafiste pendant 2 ans. Voilà.
De 2001 à 2003.
C'est ça. Et ça n'a pas laissé d'impact. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il n'est pas considéré comme personne radicalisée par le ministère de l'Intérieur.
André Chamy, l'avocat de l'agresseur d'Alain Finkielkraut, au micro Europe 1 d'Arthur Elmbaché. Ce matin sur Europe 1, vous avez entendu l'interview du père du petit Anatole, bientôt 8 ans, atteint d'un cancer. Une cagnotte a été lancée. Ce matin, elle comptait 40 000 euros. On vient de dépasser les 66 000 objectifs atteints. Bravo, bravo, c'est grâce à vous. Les parents d'Anatole vont pouvoir financer un nouveau traitement pour leur fils. Vous retrouvez l'interview sur notre site europe1.fr et on vous tient bien sûr informé de l'évolution de sa situation.
Il est 12h39. Europe 1.
Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Un sommet inédit, ça se passe au Vatican contre les agressions sexuelles sur mineurs par des prêtres. A tout de suite.
Il est 12h41 sur Europe 1, la suite du journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Et c'est un sommet inédit que le pape François a convoqué, Pierre, à partir d'aujourd'hui au Vatican.
On est bien sûr dans le contexte des actes sexuels sur mineurs perpétrés par des hommes d'église depuis des décennies. Virginie Riva, vous êtes à Rome et c'est le pape lui-même qui a introduit ce sommet.
Oui, après un court temps de prière, le pape a pris la parole devant ses 190 évêques, ses cardinaux, ses supérieurs d'ordre religieux. Réunis dans une salle solennelle du Vatican, il leur avait demandé de travailler en amont ce matin. Il leur a clairement dit qu'il fallait que le travail de ces trois jours produise de vrais résultats.
Le saint peuple de Dieu nous regarde et attend de nous non seulement des condamnations attendues, mais des mesures concrètes et efficaces. Il faut du concret.
Puis les prélats ont découvert les témoignages accablants de 5 victimes, uniquement leur voix au dernier moment. Elles ont toutes demandé à ne pas être vues, selon le Vatican. Cette victime africaine raconte avoir été abusée dès l'âge de 15 ans et forcée à avorter 3 fois. Une autre, chilienne, leur lance « Vous vous êtes converti dans certains cas en meurtrier des âmes, en assassin de la foi. Je vous demande de coopérer avec la justice. » Sans mesures concrètes cette semaine, l'Église pourrait bien risquer sa survie.
Merci Virginie Riva, à Rome pour Europe 1.
Bonjour Jean-François Colosimo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes historien, théologien, auteur de nombreux livres sur les religions. Dites-moi, ce sommet, il sert à quoi ? Est-ce que c'est de l'affichage ou est-ce que le pape veut réellement mettre un coup de pied dans la fourmilière et faire le ménage ?
Alors d'abord, vous voyez bien que d'une part, il convoque les 114 présidents de conférences épiscopales nationales. C'est-à-dire qu'il veut en fait mettre de côté la curie. La curie est représentée, mais ce n'est pas elle qui sera majoritaire. Ce sont des évêques de terrain, ce sont des présidents d'églises qui correspondent à peu près aux très grands pays dans lesquels le catholicisme est majoritaire. Et donc là, il y a un effet physique, concret, on s'adresse aux gens qui sont sur le terrain et on essaie d'écarter le pouvoir central dans lequel on n'a pas confiance, dans lequel le pape n'a guère confiance puisqu'il a été plusieurs fois trahi par
c'est ce qu'on appelle
central.
La curie.
Donc il est
ce qu'on appelle la curie.
Il est clairement en défiance vis-à-vis de ceux qui sont autour de lui.
Bien sûr, ne serait-ce que rappelez-vous qu'il s'est rendu au Chili où il a été abusé il y a de cela 8 mois et où les évêques chiliens s'étaient arrangés pour exonérer un prêtre pédophile multirécidiviste. Le pape est tombé dans ce piège, la sanction est venue très vite, les évêques chiliens ont tous démissionné, à la demande du pape vraisemblablement, même si c'est apparu comme étant de leur bon vouloir, et il les a véritablement amolestés. Donc le pape sait qu'il y a un problème d'opacité, qu'il y a un problème d'omerta. Ça, c'est le premier point. Donc il s'adresse directement, c'est une rencontre planétaire.
Et le deuxième point, Jean-François Colosimo,
c'est qu'il veut des résultats concrets, il veut des mesures concrètes.
Mais c'est quoi ?
Dans la suite.
C'est-à-dire des sanctions, concrètes, par exemple ?
Des sanctions. Il a donné le ton lui-même, puisqu'il vient de réduire à l'état laïque, c'est le terme canonique, c'est-à-dire il vient, en fait, d'enlever au cardinal McGarrick, qui était l'archevêque de Washington, eh bien, cet homme qui a été convaincu d'actes pédophiles vient, et qui était très important et très influent, parce que c'est lui qui a porté les fonds américains au Vatican, vient d'être réduit à rien, c'est-à-dire qu'il a été défroqué publiquement. C'est la première fois, en fait, depuis très très longtemps, probablement depuis le Moyen-Âge, qu'un cardinal est défroqué publiquement pour des raisons de scandale sexuel.
Jean-François Colosimo, est-ce que François va arriver à changer l'image des catholiques ? Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent, et notamment chez les laïcs, que le prêtre, il y a beaucoup d'amalgame, est assimilé à un pédophile.
Absolument. C'est-à-dire que, de toute façon, je pense que le pape François prend toute la mesure de cette gangrène, mais cette gangrène, encore une fois, elle ne rend pas compte, évidemment, de toute la réalité de l'Église catholique. Il y a des prêtres, des sœurs, des laïcs, il y a un mouvement caritatif qui est là encore mondial, planétaire. Simplement, il y a eu véritablement un problème, en fait, de traitement, de comportement complètement
anomique. Mais est-ce qu'il va y arriver ?
Est-ce qu'il va y arriver? Il s'est engagé là face à un véritable défi. Il a convoqué tous ces gens pour que ces gens-là mettent désormais en pratique des décisions qui ont déjà été prises sous Benoît XVI, tolérant zéro.
Oui, et c'est bien pour ça qu'on vous pose la question. Est-ce que cette fois-ci, ça va fonctionner?
Chose, c'est la coopération désormais des institutions ecclésiastiques avec les institutions étatiques, avec la justice. Et ça, effectivement, il veut l'obtenir, mais pour l'obtenir, il faut qu'il y ait une véritable conversion. Or, le problème qu'a François, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il a contre lui tout un establishment qui ne veut pas de ces réformes, parce que cet establishment est conservateur et pense que ces problèmes, au fond, sont anodins. Et lui, il considère que ce n'est pas vrai et qu'il faut véritablement rétablir la vérité du témoignage catholique.
Et on entre donc vraiment dans une guerre. Merci beaucoup Jean-François Colosimo d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Il est 12h46, la suite du journal sur Europe 1 avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Comment faire, Pierre, quand on n'a pas de diplôme pour trouver du boulot?
Alors, il y a la méthode Macron, traverser la rue, aller faire le plongeur dans une crêperie. Heureusement, il y a mieux. Il y a des jeunes qui peuvent être très bien orientés grâce au CIDJ, le Centre d'information et documentation jeunesse, qui publie aujourd'hui un guide très complet qu'Europe 1 a pu consulter. 50 secteurs au total, panorama avec Aurélien Fleureau.
Parmi les métiers accessibles, même sans avoir fait de longues études, il y a principalement ceux du commerce et de l'hôtellerie-restauration. Mais il y a aussi des secteurs moins connus, robotique, mécanique industrielle ou encore fibre optique. Encore faut-il être au courant. C'est pour cette raison que Gwendoline, qui est en reconversion professionnelle, s'est rendue au CIDJ.
Je veux changer de travail, mais je ne sais pas où je vais aller. C'est qu'est-ce que je peux faire après et quel domaine recrute le plus, quoi. Où il y a des débouchés surtout. Peut-être qu'il y a des métiers que je ne connais pas qui recrutent et voilà.
Recenser les secteurs qui embauchent et qui proposent en même temps des formations pour les moins diplômés, c'est aussi la démarche du CIDJ, explique Michel Tardy, le coordinateur du guide.
Par exemple, un métier qui s'appelle agent de stérilisation, qui est un métier à la frontière entre le secteur de la santé et de la propreté. C'est un métier très impacté par les départs à la retraite et le turnover. Donc on recherche aussi bien des hommes que des femmes, soit un bac professionnel, soit un titre d'agent de stérilisation en milieu hospitalier.
Des informations indispensables puisque les jeunes sans diplôme sont trois fois plus nombreux à être au chômage que les diplômés du supérieur.
Aurélien Fleureau.
Au bureau, c'est pas comme à la maison et pourtant, c'est bien là qu'on passe la plus grande partie de nos journées.
N'est-ce pas Raphaël? Et forcément, nos collègues de travail comptent un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Il y a de l'affect dans tout ça, c'est ce que souligne un livre qui vient de sortir. Ça s'appelle « La dépendance affective au travail » aux éditions Erol.
En substance, certains employés ont besoin du regard des autres pour exister. Si on veut faire simple, Ève Roger, on est tous dépendants, mais à des degrés différents.
Et oui, on préfère quand même tous travailler avec des gens qui pensent du bien de nous que l'inverse. Mais chez certains, ce besoin d'un regard bienveillant et positif au bureau est disproportionné. Alors ils vont chercher sans arrêt l'approbation, l'assentiment de leur collègue ou de leur chef, un peu comme un enfant avec ses parents. Et vous allez tout de suite comprendre quand je vais vous dire que le dépendant affectif, c'est celui qui passe 10 fois par jour dans le bureau de son chef pour lui raconter au fur et à mesure comment son travail avance. C'est celui qui bombarde ses collègues de mails et qui ne comprend pas qu'on ne lui réponde pas tout de suite. C'est quelqu'un qui prend assez mal la critique car il se sent toujours attaqué personnellement. Il a le sentiment que c'est lui qu'on remet en cause, pas seulement son travail. Et ce syndrome touche tous les niveaux hiérarchiques, toutes les générations, y compris les plus jeunes. Jérôme Ballarin dirige l'Observatoire de la qualité de vie au travail et souvent les managers se plaignent auprès de lui de leurs jeunes collaborateurs.
Les jeunes collaborateurs sont en demande permanente de feedback, de retour sur leur travail, de compliments ou de remarques. Comment tu m'as trouvé dans la réunion? La présentation que j'ai faite, ça allait? Ça prend de telles proportions que parfois ça occupe une bonne partie de leur journée, surtout si leur équipe est jeune. Et on peut l'expliquer par le fait que c'est une génération qu'on peut appeler de l'enfant roi où ils espèrent retrouver la même chose dans l'entreprise à travers leur manager.
Alors comment sortir de cette dépendance affective? D'abord en prendre conscience pour prendre un peu de recul et puis écouter cet après-midi Olivier Delacroix sur Europe 1 à 15h. Oui. C'est le thème de son émission.
Merci Ève Roger.
Il est 12h50.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant. L'ombre de Nicolas Sarkozy derrière le changement de sponsor au PSG. A tout de suite.
Il est 12h52 sur Europe 1, la suite du journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Et dès la saison prochaine, les joueurs du PSG n'arboreront plus le maillot flanqué du fameux Fly Emirates.
Que nos gamins s'arrachent à la place, il y aura All à deux L, ça veut dire tout en anglais. Mais All, c'est surtout une filiale du groupe Accor. Et une fois qu'on a dit ça, évidemment, Jean-François Pérez, on arrive très vite sur le nom de Nicolas Sarkozy.
Mais oui, d'abord parce que Nicolas Sarkozy est un supporter historique du Paris Saint-Germain. Il ne rate quasiment aucun match au Parc des Princes dans la corbeille présidentielle aux côtés de Nasser Al-Khelaïfi. L'ancien chef de l'État, on le sait, a joué un rôle prépondérant dans l'arrivée des Qataris à la tête du club il y a bientôt 10 ans. Un club qui était alors dirigé par Sébastien Bazin, patron du fonds d'investissement Colony Capital à l'époque. Bazin, qui est depuis devenu le PDG d'Accor, propriétaire de Hall, le futur sponsor maillot du Paris Saint-Germain. Accor, groupe français, leader mondial de l'hôtellerie, où siège notamment au conseil d'administration un membre de la famille régnante du Qatar et un certain Nicolas Sarkozy.
Oui, la boucle est bouclée en quelque sorte.
Voilà, Sébastien Bazin, Qatar, Nicolas Sarkozy, c'est en quelque sorte la famille du PSG qui s'est rassemblée pour mettre un terme aux 13 années de présence de Fly Emirates, la compagnie aérienne de Dubaï. Un émirat qui entretient des relations de plus en plus tendues avec son voisin qatari. Voilà, vous le voyez, c'est bien plus qu'un simple contrat de business qui vient de se nouer. Un chiffre pour terminer, Emirates donnait environ 25 millions d'euros par an au PSG. Hall sera forcément au-dessus. C'est une bonne nouvelle pour le PSG, toujours tiraillé par le fair play financier. Plus de détails sans doute demain soir, 18h au Parc des Princes, lors d'une conférence de presse.
Merci Jean-François Pérez. Le foot sur le terrain, 16e de finale retour de la Ligue Europa ce soir avec le Betis Séville qui affronte Rennes. Et c'est la nouveauté nouvelle des JO de 2024. 4 nouvelles disciplines ont été officiellement proposées. L'escalade, le surf, le skateboard et vous l'entendez, le breakdance. Le patron Tony Estanguet veut, je cite, une dimension plus artistique.
Bah, ça tombe bien, on termine par une fabuleuse exposition à la Fondation Vuitton à Paris, la collection Courtauld.
Et ce n'est pas anodin de voir que Bernard Arnault propose cette collection dans son musée. Il y a forcément du Samuel Courtauld en lui, entrepreneur, homme d'affaires. Courtauld était industriel. Tous deux ont en commun d'avoir l'œil pour les tableaux qui vont dessiner l'histoire de l'art. Diane Chedouda, autre point commun.
Oui, Pierre.
Le fait de vivre pour tous les deux dans une maison qui littéralement est un musée.
Absolument. Samuel Courtauld et sa femme Elisabeth vivaient au milieu de leurs tableaux, dans leur manoir londonien, dans les salons des Monet, Manet, Renoir, Cézanne, Van Gogh, Turner, au-dessus des cheminées, imaginez la loge de Renoir, les bords de Seine de Manet, une vue d'Antibes de Monet ou une Sainte Victoire de Cézanne. Et dans les chambres, des œuvres plus intimes, comme ce nu de Degas. Une centaine de chefs-d'œuvre de l'impressionnisme, en tout que Samuel Courtauld, riche industriel dans le textile à Londres, a collectionné avec sa femme dans les années 20. Karen Serre est la conservatrice de l'Institut Courtauld à Londres.
Il a décidé de dépenser cette fortune en achetant de l'art impressionniste à un moment où, en fait, en Angleterre, il n'en existait pratiquement pas du tout dans les collections publiques. Lui était absolument convaincu que c'était le renouveau de la peinture et il fallait qu'il soit accessible au plus grand nombre.
Et lui avait l'argent pour acheter des Manet déjà reconnus et très chers, mais il adorait aussi Cézanne, méprisé en Angleterre et qu'il a acquis en très grand nombre.
Il parlait de la magie de Cézanne. Pour lui, c'était vraiment entièrement basé sur les émotions. Il disait, si ses œuvres peuvent me parler à moi, ils peuvent parler à tout le monde.
À la mort de sa femme, Samuel a fait don de son éblouissante collection à l'Institut qui porte son nom à Londres et dont on peut donc admirer aujourd'hui les inestimables joyaux à la Fondation Vuitton.
Il faut y courir, c'est jusqu'au 17 juin. Merci Diane Chenouda.
Merci Pierre, on se retrouve dans quelques instants pour les grands titres.
Il est 12h55.
Europe 1.
Et vous restez avec nous. Bien sûr, on vous emmène à la montagne aujourd'hui, découvrir la glisse à la française. A tout de suite sur Europe 1.
Multipliez les bons plans pendant les jours Megamix chez Géant. Jusqu'au 3 mars dans votre Géant, pour un paquet de lessive capsule 2 en 1 Homo acheté, le deuxième est 100% offert. Oui, le deuxième paquet de lessive 2 en 1 Homo 100% offert. Faire des méga économies, ça c'est Géant.
Essence et fleurs d'Orient par deux, le paquet de 30 capsules à 4,13€ au lieu de 8,25€. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Conforama, le confort pour tous.
À ceux qui veulent recharger leur batterie,
on offre moins 50% sur le canapé convertible 3 places Lager avec prise USB intégrée, soit à 499€.
À ce prix-là, on y va plutôt deux fois qu'une.
Conforama, jusqu'au 11 mars, conditions en magasin et sur conforama.fr.
Bon, on fait quoi pour le divorce?
Je garde la maison. Et la voiture?
Pas question, pas la Polo.
C'est ma voiture.
Alors je veux plus divorcer.
Thomas, je t'en prie.
Mais je t'aime.
Thomas.
Quoi? Si, je t'aime, je te re-aime. Je...
Oh là là.
Non, mais ça arrive tout le temps, ces trucs-là. Allô? Mon amour?
On peut douter de tout, mais pas de sa Volkswagen.
En février, pour l'achat d'une Polo, profitez d'une reprise plus jusqu'à 5 250 € sur votre ancien véhicule, sous condition de bénéficier de la prime à la conversion de 2 000 €. Conditions sur service-public.fr et volkswagen.fr.
Découvrez le secret de la vitalité d'Annie Dupéret.
Un secret ? C'est juste que je suis bien dans ma peau, grâce à mon nouveau soin Nivea Vital Confort et Nutrition. Fini la peau sèche. Ma peau est bien nourrie, confortable et moi, je profite de la vie.
Découvrez le nouveau soin Vital Confort et Nutrition pour peau mature de Nivea. Et jusqu'au 31 mars, pour tout achat d'un produit Nivea Vital dans les magasins participants, jouez et tentez de gagner un vélo électrique. Règlement sur Nivea.fr.
Et c'est l'heure de la météo sur Europe 1, Raphaël Duchemin.
Oui, avec Elena Mornar, météo printanière, c'est bon pour le moral, mais pas vraiment pour l'atmosphère.
Bah oui, parce que l'anticyclone qui nous assure le soleil, il fait aussi office de couvercle, un couvercle qui empêche l'évaporation des particules fines, ces particules qui pénètrent directement dans le système respiratoire. Paris, l'Île-de-France, plus globalement, traverse en ce moment une période de pollution, justement, d'où les recommandations, ne pas circuler en voiture ou pas de sport à l'extérieur. La situation météo ne va pas améliorer. On va rester sous la protection de cet anticyclone. Dans les prochains jours, on pourrait donc avoir une restriction de la circulation. Sinon, côté ciel, eh bien, ça reste une très belle journée ensoleillée, des températures printanières, comme vous le disiez Raphaël, avec des pointes à 22 degrés cet après-midi à Biarritz. On est carrément dans une atmosphère de fin mai et ça va donc durer au moins jusqu'à la semaine prochaine.
Ah, formidable. Merci Elena. Nous sommes le jeudi 21 février, c'est l'heure des titres. Pierre de Villeneuve.
Nouveau service après-vente sur l'affaire Benalla, signé cette fois-ci Édouard Philippe, qui juge les conclusions de la commission d'enquête sénatoriale incompréhensibles, injustes. Elle s'est livrée, dit Édouard Philippe, à une appréciation très politique. Un mort et 2 pompiers gravement blessés dans l'incendie d'un immeuble de 14 étages à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Le feu est maintenant circonscrit. Un sommet historique et inédit consacré à la lutte contre la pédophilie dans l'Église s'ouvre aujourd'hui au Vatican. Quelques 190 participants du monde entier se réunissent pendant 3 jours à Rome.
Merci Pierre, à tout à l'heure. Rendez-vous juste avant 14h.